écoutez Europe 1, il est presque 13h.
Europe 1 13h.
Céline Géraud.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue à bord, bien sûr, Europe 1. 13h, c'est votre rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Alors, dans ce journal, souffler sur les braises en entretenant une forme d'ambiguïté, que faut-il retenir de l'allocution télévisée d'Emmanuel Macron sur le conflit en Ukraine? Un discours va-t-en-guerre qui n'a pas rassuré l'opposition. Et vous, auditeurs d'Europe 1, qu'en avez-vous pensé? Eh bien, venez réagir 01 80 20 39 21 dès 13h20. Europe 1 13h vous donne la parole. Et pendant ce temps, là, à l'occasion du 20e anniversaire de la loi laïcité qui interdit notamment le port des signes religieux dans nos écoles, la ministre de l'Éducation vient de dévoiler des chiffres inquiétants. Les détails dans quelques instants. L'actualité, c'est aussi cette décision du Conseil d'État. Vous pourrez désormais acquérir des congés payés en arrêt maladie. On vous explique ce qui va changer dans ce journal. Le 15 mars, c'est la journée mondiale du sommeil. Seuls 12% des Français affirment bien dormir. Europe 1 vous dit tout. Et puis, quel adversaire pour le PSG Marseille et Lille en quart de finale des Coupes d'Europe? Le tirage au sort se déroule actuellement en Suisse. Rendez-vous à la fin de ce journal. 13h02, Géraldine Hamon, la tendance météo pour l'après-midi.
C'est un temps instable qui persiste sur les trois quarts du pays. Au programme éclairci, passage nuageux, averse. Des orages aussi dans certains endroits. Les maximales restent encore douces pour la saison, comprises entre 14 et 18 degrés, localement 18 à 21 au sud de la Garonne et sur le sud-est. Météo complète sur Europe 1 à la fin de ce journal.
Europe 1.
Et on ouvre donc cet Europe 1 13h avec ce phénomène inquiétant. Dimanche dernier, dans le journal du dimanche, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, évoquait des jeunes de 11, 12 et 13 ans susceptibles de participer à des attentats terroristes. William Molinier, vous avez enquêté pour Europe 1. Les services de renseignement constatent l'émergence d'une nouvelle génération de djihadistes.
Oui, des chiffres particulièrement inquiétants. La moitié des islamistes mis en cause dans des attentats déjoués depuis 2021 ont moins de 20 ans. Rien que l'année dernière, 15 mineurs ont été mis en examen pour des faits de terrorisme, autant que sur les 4 dernières années. On fait face à une accélération de ce rajeunissement avec des modes opératoires de plus en plus aboutis, puisque ces jeunes peuvent aller jusqu'à se procurer des armes sur Internet. D'ailleurs, ils connaissent les réseaux sociaux par cœur, ils savent manipuler les outils numériques. Autre particularité de cette génération, ils s'affranchissent de leurs aînés, les vétérans du djihad. Ils ne cherchent pas à faire allégeance à Daesh ou à Al-Qaïda, mais s'emparent des thématiques communautaires selon lesquelles l'État français serait islamophobe. Exemple, l'interdiction du voile intégral, le soutien à Israël, la fermeture de lycées musulmans privés. Tout cela leur est insupportable. Ils trouvent dans cet argumentaire une justification de leur ultra-violence.
William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Alors comment faire pour lutter contre la radicalisation de plus en plus jeune sur notre territoire? Dès 13h20, je poserai la question à mes chroniqueurs, l'ancien magistrat Philippe Bilger et l'écrivain essayiste Paul Melun. Venez réagir, Europe 1 13h, comme chaque jour, vous donne la parole.
Au 01 80 20 39 21, le numéro est non surtaxé. Il est 13h04 sur Europe 1, vous écoutez le journal de Céline Géraud.
Et je reviens dans ce journal sur l'allocution télévisée du chef de l'État hier soir à propos du conflit en Ukraine. Emmanuel Macron, en chef de guerre, continue à entretenir une forme d'ambiguïté stratégique, soufflant sur les braises pour mieux les éteindre. Dans la foulée, Arthur Delaborde, les oppositions dénoncent surtout les arrière-pensées politiques du président.
Oui, la gauche comme la droite fustige le ton belliqueux d'Emmanuel Macron dicté par la campagne des européennes. Veut-il faire la guerre à la Russie ou occuper l'espace politique, s'interroge le patron des Républicains, Éric Ciotti. Sur le même registre, le président du RN, Jordan Bardella, fustige un président empreint de légèreté, d'irresponsabilité et de cynisme. De son côté, la tête de liste Reconquête manie l'ironie pour Marion Maréchal. Emmanuel Macron joue à la guerre comme au Playmobil. À gauche, les réactions ne sont pas plus tendres. Si on alimente la guerre, on finit par la faire soi-même, tacle le chef de file des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon.
Emmanuel Macron qui vient d'arriver en Allemagne pour parler de l'Ukraine. Alors son ambition, apaiser les tensions avec le chancelier allemand Olaf Scholz.
Oui, le malaise est réel entre les deux dirigeants. Les déclarations d'Emmanuel Macron n'excluant pas l'envoi de troupes au sol ont agacé Berlin. Puis dans la foulée, les divergences de vues ont été étalées sur la place publique. Mais le couple franco-allemand finit toujours par se retrouver sur l'essentiel, relativise un conseiller de l'exécutif. Il y a au moins un point d'accord entre Olaf Scholz et Emmanuel Macron. La Russie ne doit pas gagner la guerre. Ils vont donc tenter aujourd'hui d'accorder leur violon sur les moyens à mettre en œuvre pour aider l'Ukraine à l'emporter.
Arthur Delaborde pour Europe 1. Alors une allocution qui a aussi été suivie en Russie et utilisée de manière savamment déformée alors même que les Russes ont commencé à voter pour l'élection présidentielle. Nicolas Tonev, les Russes ont donc pu écouter les propos d'Emmanuel Macron sur des écrans installés dans certains bureaux de vote par la chaîne internationale russe Russia 24.
Oui, absolument. Et je vous propose d'ailleurs d'écouter ce que cela donne traduit en russe.
Nous ayons систématiquement
fait ce que nous n'avions jamais fait. Deux ans назад, nous avons dit que...
Voilà cet extrait est soigneusement choisi. Hein, c'est celui où Emmanuel Macron évoque les atermoiements occidentaux. En particulier, quand il dit « Nous avons fait systématiquement ce que nous disions que nous n'allions pas faire », comme l'envoi de chars, de missiles longue portée. Alors, bien sûr, sorti du contexte, l'extrait permet de présenter en Russie l'Occident et donc en particulier la France comme dirigée par des personnes incohérentes et dangereuses, contrairement à la Russie. Et puis, en plus de ce passage sonore, Russia 24 pose cette question textuellement. Le napoléonchik, Macron veut-il que l'Europe entre en guerre contre la Russie? Napoléonchik, soit le petit Napoléon, hein, un terme rabaissant et qui ramène évidemment à l'échec napoléonien avec la retraite de Russie, à la Bérézina, une manière de prédire un sort peu enviable dans le futur à Emmanuel Macron.
Nicolas Tonev, pour Europe 1. Allez, 13h07, on fête aujourd'hui le 20e anniversaire de la loi encadrant le port des signes religieux à l'école. Le ministère de l'Éducation nationale vient d'ailleurs de dévoiler les chiffres sur les atteintes à la laïcité dans les établissements scolaires lors du dernier trimestre de l'année scolaire. Louise Salé, vous êtes la spécialiste éducation à Europe 1. Alors, ils sont en baisse, ces chiffres, en particulier concernant le port des tenues religieuses. Le nombre de signalements est divisé par 10 entre septembre et janvier, mais les contestations d'enseignement restent à un niveau important.
Oui, et c'est ce qui inquiète le ministère. Les contestations d'enseignement représentent désormais près de 20% des signalements contre 10% environ plus tôt dans l'année. Un chiffre à relativiser cependant par rapport au nombre total d'atteintes qui est en baisse, près d'un millier de décembre à janvier contre 3000 entre septembre et novembre. Et pour ces enseignements contestés qui conduisent à l'autocensure de certains profs, Gabriel Attal a annoncé mercredi mettre en place des cellules d'appui pédagogique, c'est-à-dire la présence physique de prof ou d'inspecteur formé dans une classe si un enseignant en ressent le besoin pour l'aider sur certains contenus de cours. Nicole Belloubet a par ailleurs annoncé ce matin à l'occasion d'un colloque sur la laïcité que le concours des personnels de direction serait enrichi d'une épreuve pour mieux les former aux valeurs républicaines, ce sera en 2025, et que d'ici la fin de l'année, un conseil des jeunes de la laïcité verra le jour. Ils partageront leurs réflexions et outilleront le ministère sur le terrain.
Merci Louise Salé pour Europe 1. Allez, on reste ensemble bien sûr jusqu'à 14h avec vous. Et dans quelques instants, cet avis du Conseil d'État très attendu sur l'acquisition de congés payés en arrêt maladie. Ce constat inquiétant, nos nuits sont de plus en plus courtes. Et puis, le tirage au sort des quarts de finale de Coupe d'Europe. On sera en direct du siège de l'UEFA dans quelques instants. Le PSG affrontera le FC Barcelone. Tous les détails dans quelques instants.
Céline Giraud vous informe de 13h à 14h sur Europe 1. À tout de suite.
Europe 1, 13h.
Merci de nous rejoindre sur Europe 1. Il est 13h10 et vous écoutez le journal de Céline Giraud.
Et dans ce journal, une information qui va vous intéresser. Jusqu'à maintenant, le droit français ne permettait pas à un salarié français d'acquérir de congés payés lorsqu'il était en arrêt maladie. Eh bien, le Conseil d'État a tranché. La France va se conformer au droit européen. Mathieu Prior, le Conseil d'État a fixé des limites.
Oui, trois limites. La première, c'est le nombre de jours de congés qu'il sera possible d'acquérir. La durée minimale en France est de 5 semaines, mais elle est de 4 semaines en Europe. Le Conseil d'État a retenu la référence européenne, une discrimination pour Isabelle Mercier, secrétaire nationale à la CFDT en charge des questions du travail.
C'est une vraie limitation du droit des salariés. On pénalise les gens qui sont en longue maladie. C'est une vraie injustice pour les salariés dans la mise en œuvre de cette mise en conformité.
Deuxième limite fixée par le Conseil d'État, elle concerne la rétroactivité. Un salarié ne pourra pas remonter au-delà de 3 ans maximum. Un soulagement pour le patronat, même si le secrétaire national de la CPME, Jean-Eudes Duménil, reste sceptique.
Sur le fond,
on reste opposé au principe de dire que quelqu'un qui est en arrêt maladie, on ne peut pas lui reprocher, mais il ne travaille pas effectivement dans l'entreprise et il pourra malgré tout, pendant cette période, continuer à acquérir des congés payés, ce qui reste inadmissible.
La mesure doit maintenant être transposée dans la loi. Le texte sera examiné lundi à l'Assemblée nationale.
Merci Mathieu Priori. Allez faire une petite sieste, ça tombe bien. Une petite berceuse pour vous Mathieu et pour tous nos auditeurs, c'est du Brahms bien sûr, on en aurait bien besoin. Pourquoi ? Eh bien parce que nos nuits sont de plus en plus courtes, c'est le constat dressé par l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance à l'occasion de la Journée Mondiale du Sommeil. C'est aujourd'hui, Yasmina Katou, en seulement un an, la durée de sommeil des Français a beaucoup diminué.
Les Français dorment un quart d'heure de moins que l'année dernière avec une nuit qui dure 6h42 en moyenne. C'est presque une demi-heure de moins qu'il y a 10 ans et les couchers sont de plus en plus tardifs. En semaine, nous nous mettons au lit à 23h06. Il faut ensuite compter 37 minutes pour tomber dans les bras de Morphée. Pire, les 18-24 ans s'endorment au bout de 53 minutes. L'une des principales causes de ces courtes nuits, les écrans. Marc Rey est neurologue et président de l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance.
Les écrans sont enrichis en lumière bleue. Cette lumière bleue empêche la sécrétion de mélatonine et donc ces écrans vont allonger la durée d'endormissement et donc, bien entendu, ça réduit d'autant la durée du sommeil nocturne.
Pour compenser ce manque de sommeil, plus de la moitié des Français font au moins une sieste par semaine d'une heure en moyenne. Un bon moyen de récupérer, à condition de faire ce petit somme avant 15h pour éviter de perturber votre nuit.
Les bons conseils de Yasmina Katou, spécialiste santé pour Europe 1.
13h13 sur Europe 1, c'est le grand jour, Céline, pour les trois clubs français, encore en course en Coupe d'Europe.
Mais oui, et voilà la musique bien sûr poussée d'adrénaline pour le Paris Saint-Germain, Marseille et Lille. Le tirage au sort des quarts de finale en ce moment. Jean-Luc Boujon, vous êtes au siège de l'UEFA à Nyon, en Suisse pour Europe 1. Et ça y est, le PSG connaît son adversaire et c'est un gros morceau.
Oui, un gros morceau, mais peut-être pas le plus gros, hein, parce que déjà Paris a évité les trois monstres, Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich, ça c'est déjà pas mal. Mais Barcelone, c'est vrai que ça reste une grande équipe, mais Barcelone n'est pas dans la forme de sa vie en ce moment. Le Barça n'est actuellement que troisième de son championnat, très loin du Real qui est leader. En plus, l'équipe ne joue pas très bien, et puis côté coulisses, son entraîneur Xavi a déjà annoncé qu'il ne serait plus là la saison prochaine. Donc Barcelone est un peu en crise et n'est plus en tout cas l'épouvantail qu'il a été. Reste quand même que quand on dit Barça-PSG, ben, on pense forcément remontada. 2017, 4-0 à l'aller pour Paris, 6-1 pour Barcelone au retour. Le souvenir est toujours cuisant pour les supporters parisiens. Et qui était l'entraîneur de Barcelone à ce moment-là? Je vous le donne en mille, Céline. C'était Luis Enrique qui dirige aujourd'hui le PSG. Donc normalement, il doit savoir faire, il doit avoir la recette pour qualifier Paris pour les demi-finales, où le club jouera, s'il se qualifie, le vainqueur du duel Atlético Madrid-Dortmund. Donc là encore, pas le pire chemin pour aller jusqu'en finale, avec, on l'espère, un Kylian Mbappé en forme. Lui qui disputera à ce moment-là ses derniers matchs sous le maillot du PSG. À noter quand même que Paris recevra au match aller, c'est pas forcément un avantage. Et puis ça rappelle aussi un peu la configuration de la remontada il y a 7 ans. On verra, on verra.
Merci beaucoup Jean-Luc Boujon en direct du siège de l'UEFA pour Europe 1. Et évidemment dans le journal d'Émilie Dez à 14h, le point complet sur ce tirage au sort, notamment pour Marseille et pour Lille. Allez, 13h15, comme chaque jour, un point sur les marchés avec vous Didier Hameau de boursier.com. Et ça monte aujourd'hui.
Ça monte encore, ce n'est pas un record, on n'est pas loin. Hein. 8205 points, plus 0,5%, les records c'était plutôt hier. Le luxe, hier, a monté. Il était même en forme, hein, le secteur du luxe, très en forme. Aujourd'hui, c'est plutôt le secteur pétrolier qui prend le relais dans le sillage du baril de pétrole qui grimpe à 85 dollars. La demande de pétrole a été plus importante que prévu au premier trimestre, ce qui soutient les cours du brut. Et donc, tout le secteur monte. Technip, plus 2,5%. Total, plus 1%. Morel et Prom, plus 1% aussi. Vallourec, plus 0,5%. Ailleurs en Europe, ça grimpe aussi. Hein. Francfort, plus 0,4%. Bruxelles, plus 0,6%. Le CAC 40 en hausse de 0,5%. 8205 points.
Merci Lydia Hameau de boursier.com. Allez, maintenant, passe la météo. Place
la
à la météo.
Météo avec Demeco. Demeco vous déménage partout où que vous soyez. Rendez-vous sur demeco.fr.
Demeco.
Et la météo, donc, de ce début de week-end, oui. Le temps se dégrade, Géraldine Hamon, mais les températures sont toujours très douces.
Exactement, Céline, et 2 degrés au-dessus des normales de saison. Il fera 12 degrés à Boulogne-sur-Mer, 15 à Brest et Quimper, 16 degrés à Paris, 17 degrés à Marseille, 19 degrés à Biarritz, 20 degrés à Nîmes et Lyon, jusqu'à 21 degrés à Carcassonne et Perpignan. Pour le ciel maintenant, et bien sur les deux tiers nord du pays, le temps devient instable, avec un ciel bien gris et même des giboulées. Ces averses sont parfois accompagnées de petites grêles et peuvent tourner à l'orage sur un grand quart nord-est. Sur le sud, le temps reste plus calme avec un soleil généreux, même si quelques gouttes sont à prévoir sur le sud-ouest. Encore un peu de neige aussi sur les Alpes au-delà de 1900 mètres et le vent, lui, de sud-ouest, va souffler toute la journée jusqu'à 70 km/h sur les côtes de la Manche. Un vent qui a tendance à se renforcer à l'intérieur des terres sous les averses l'après-midi avec des rafales qui iront jusqu'à 70 km/h. Demain, le temps s'annonce un peu plus calme avec moins d'averses mais beaucoup de nuages au nord. La moitié sud, elle, conserve des conditions agréables avec douceur et de belles éclaircies.
Merci Géraldine Hamon. Allez, on reste ensemble jusqu'à 14h, chers auditeurs d'Europe 1, dans quelques instants avec mes chroniqueurs du jour, Philippe Bliger et Paul Melun. Eh bien, on va décrypter les sujets qui font parler aujourd'hui, notamment les atteintes à la laïcité, les djihadistes de plus en plus jeunes et l'allocution très contestée d'Emmanuel Macron sur le conflit en Ukraine. Restez bien avec nous sur Europe 1. Europe 1 13h de retour dans une poignée de secondes.
De 13h à 14h, vous écoutez Céline Giraud sur Europe 1.
Europe 1 13h.
Merci de nous rejoindre sur Europe 1. Vous écoutez Céline Giraud de 13h à 14h et décryptage de l'actualité aujourd'hui, Céline, avec vos deux chroniqueurs du jour, Philippe Bliger, dont c'est la première, et Paul Melun.
Voilà, et on va parler, je vous remercie, bienvenue à bord.
Merci.
Merci d'être là, je suis ravie de vous accueillir. On va revenir sur ce qui fait l'actualité aujourd'hui. Alors, des enfants de 11, 12 et 13 ans susceptibles de participer à des attentats terroristes, c'est une petite phrase du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, rapportée par le journal du dimanche dernier. Alors, il y a eu Mera, il y a eu les frères Kouachi, Salah Abdeslam. Eh bien, une nouvelle génération de djihadistes est en train de naître en France. La moitié des islamistes mis en cause dans des attentats déjoués depuis 2021 ont moins de 20 ans. Ce sont des informations recueillies par William Molinier d'Europe 1. Alors, comment lutter contre cette radicalisation 2.0 puisqu'elle se fait via les réseaux sociaux, Philippe Bliger?
Je dirais que, sans vouloir me prêter une lucidité que je n'ai pas, rien ne m'étonne de la part de cette minorité qui devient de plus en plus précoce sur le plan de sa dangerosité, qui est évidemment en matière de drogue est fondamentale parce qu'elle permet de protéger les trafiquants d'une certaine manière. On met la minorité en avant et cela ne m'étonne pas que dorénavant, elle soit très préoccupante, ces jeunes de 12, 13, 14 ans dans le domaine du terrorisme puisqu'ils offrent également un bouclier délétère pour tous ces gens. Ça ne fait que prolonger ce que, pardon, très modestement, je dis, oui, depuis des années, c'est qu'il faut s'attacher à une dénonciation de la transgression des mineurs qui oublie un petit peu l'éducatif pour aller vers un répressif sans mauvaise conscience.
C'est-à-dire
que, par exemple, quand j'étais aux assises, systématiquement, j'avais deux voix contre moi, celle des juges des enfants. Il faudrait abandonner, à partir d'un certain âge, l'excuse de minorité. On ne peut pas en permanence...
Donc les juger comme des personnes majeures.
Lorsqu'ils commettent des actes et des transgressions largement adultes, si vous me permettez cette métaphore, il faut les juger sans excuse de minorité. Je n'ai jamais abusé de l'inconditionnalité à l'égard de Nicolas Sarkozy, mais je n'aurais pas été défavorable à ce qu'il avait laissé entendre à l'époque,
oui,
un tribunal correctionnel pour les mineurs de 16 à 18 ans. Ça,
oui,
n'a pas été adapté,
oui,
ça n'aurait pas été absurde.
Ouais. Une réaction, Paul Melun, comment lutter contre cette radicalisation, la répression? Les très jeunes, on le rappelle, qui ne sont pas influencés par les vétérans du djihadisme, ils ne cherchent pas à faire allégeance à Daesh ou à Al-Qaïda.
Oui, bien sûr. Il y a d'abord effectivement une réponse qui est judiciaire, et puis en amont, il y a un travail qui est effectivement essentiel de la part des services de renseignement pour essayer de documenter, de tracer, de comprendre les parcours, d'essayer de le déceler. Et puis il y a encore un autre travail en amont, c'est tout ce que l'on va pouvoir faire au plan culturel, au plan éducatif, pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on en arrive là. Moi, je vois derrière tout cela le spectre, si vous voulez, d'une idéologie, d'islam politique, qui utilisera tous les biais de notre société pour nous faire la guerre sur notre sol. Et effectivement, la justice des mineurs, c'est une de nos failles, donc ils s'y engouffrent. De la même manière, ils utilisaient, vous savez, les femmes dans le djihadisme. Ils utilisent les réseaux sociaux, ils utilisent TikTok pour ne pas le nommer. Ils utilisent tout ce qui peut être, si vous voulez, mis en œuvre pour pouvoir déstabiliser la France, déstabiliser l'Occident. C'est une vieille stratégie des salafistes, des frères musulmans, qui est de nous déstabiliser, de crier à l'islamophobie dès qu'ils le peuvent. Et en fait, si vous voulez, ce continuum-là, extrêmement rude pour nos vieilles nations, on doit se doter de tous les outils, de tous les instruments en notre possession, instruments judiciaires, instruments policiers, instruments dans le renseignement, instruments moraux et batailles culturelles et idéologiques. En fait, c'est ce continuum-là de protection que nous devons dresser autour de notre pays. J'en rajouterai un autre, c'est les frontières et le rapport que nous entretenons à l'immigration. Et tout cela constitue finalement notre boîte à outils, comme disait jadis François Hollande en son temps, notre boîte à outils face à cette menace qui va exploser, et c'est important de le dire, dans les années à venir. Nous n'en sommes qu'aux prémices d'un choc frontal avec l'islam politique et ses avatars un peu partout dans nos pays.
De plus en plus de jeunes mineurs radicalisés sont impliqués dans des projets d'attentats. Ça vous fait réagir. Joseph nous appelle, ancien professeur de mathématiques. Vous nous écoutez à Montpellier. Bonjour Joseph.
Bonjour, enchanté. Merci de me donner la parole.
Une réaction sur le sujet.
Absolument. J'écoute très précieusement les commentaires des chroniqueurs et de monsieur l'ancien juge. Je suis en partie d'accord avec eux, mais je suis aussi opposé dans le sens où je pense que la répression juridique et de tribunaux ne peut faire qu'accentuer ce désir de...
Pourquoi ?
Parce que les jeunes, ils sont révoltés. Les jeunes, il y a une partie de ce qu'on appelle la jeunesse, c'est une jeunesse extrêmement défavorisée. Et les islamistes, qui sont pas du tout islamiques, qui sont des gens qui n'ont qu'un seul intérêt, c'est de foutre le bordel pour mieux se remettre plein les poches. Excusez-moi du terme pour un enseignant. C'est peut-être pas vraiment les meilleurs termes à utiliser, mais je pense que la seule façon de combattre ces déviances qui peuvent être extrêmement dangereuses pour la société, c'est deux choses.
Mais parce que vous avez vécu, vous, les attentats de 2015, c'est ça ?
Absolument. Surtout qu'en mathématiques, si vous voulez, quand on leur fait classe de mathématiques, ils arrivent souvent du sport ou ils arrivent de la cantine, ils sont surexcités et le fait de plonger dans les maths, ça leur crée un problème, ils n'y arrivent pas. Ils n'ont plus la concentration nécessaire pour entrer dans les sciences, parce que ça nécessite un travail intellectuel quand même. Ça nécessite d'écouter le cours. Donc il suffit qu'il y en ait un qui foute la cisanie dans le cours pour que le cours tombe. Oui. Bon, avec moi, je pratiquais une méthode un peu particulière. J'enseignais la logique mathématique. Oui. Et ça les passionnait parce que ça leur permettait de mieux travailler, de mieux tricher dans les logiciels informatique.
Oui.
Bon, et ça les intéressait. Mais j'ai eu des problèmes énormes. J'ai eu des problèmes de menaces par les parents. J'ai eu des problèmes de menaces par les frères. Mais je vous dis, c'est pas un problème de religion ou un problème d'ethnie. Moi, j'avais des élèves marocains qui étaient extrêmement doués en maths.
Oui.
J'avais des filles en maths qui étaient vraiment très très performantes. Moi, je vais vous dire, ce qui manque, c'est d'abord que les parents ont baissé les bras. Donc il faut responsabiliser les parents, comme c'était par le passé. Et puis il y a deux valeurs qu'il faut inculquer aux jeunes, mais leur inculquer parfois de force. C'est la valeur travail et c'est la valeur éducation. Il faut leur faire comprendre que l'éducation, c'est l'ascenseur de la vie sociale. Et que maintenant...
Merci beaucoup Joseph, ancien professeur de mathématiques qui nous écoute à Montpellier. On a été coupé, mais on a bien entendu votre propos et on fera réagir Philippe Bilger et Paul Melun dans quelques instants sur Europe 1. Bien sûr, on reste ensemble, on se retrouve dans une poignée de secondes, à tout de suite.
Il est 13h28, bon début d'après-midi avec Céline Géraud sur Europe 1.
Europe 1, le journal permanent.
À 13h31 et avec vous Céline Géraud.
Emmanuel Macron attendu à Berlin, le chef de l'État reçu par le chancelier allemand Olaf Scholz pour une réunion sur l'aide à l'Ukraine. Hier, 8,9 millions de téléspectateurs ont suivi l'intervention du président de la République sur la guerre en Ukraine. Rien n'est exclu pour empêcher Moscou de faire tomber Kiev, a déclaré le chef de l'État. En Russie, l'élection présidentielle a débuté. Les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à dimanche. Vladimir Poutine, en l'absence de toute opposition, est assuré d'être réélu. Le corps de l'enfant de 12 ans porté disparu dans le Gard a été retrouvé. Le bilan des intempéries qui a frappé le sud-est est de 8 morts. À Paris, un mineur présenté à un magistrat après la rixe entre bandes rivales mardi dans le 18e arrondissement de la capitale. Il est soupçonné d'avoir poignardé un jeune de 18 ans. Sa mise en examen pour assassinat est requise. 6 surveillants de la prison de Réau en Seine-et-Marne mis en examen. Ils sont accusés d'avoir participé à divers trafics, notamment de stupéfiants. Dans l'établissement pénitentiaire, 2 ont été écroués. Et puis, parfum de revanche pour le Paris Saint-Germain. Après le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions, les Parisiens affronteront le FC Barcelone. Les autres affiches, Bayern Munich-Arsenal, Real Madrid-Manchester City, Dortmund-Atlético Madrid. Les matchs allés se joueront les 9 et 10 avril, match retour les 16 et 17 avril. L'OM jouera contre le Benfica en quart de finale de la Ligue Europa.
Merci de nous rejoindre sur Europe 1. Europe 1, 13h, la suite avec vous, Céline Giraud, et vos deux chroniqueurs du jour, l'ancien magistrat Philippe Bilger et l'écrivain essayiste Paul Melun.
Et l'actualité aujourd'hui incontournable, c'est évidemment la prise de parole télévisée d'Emmanuel Macron hier soir, que vous avez suivi sur le conflit en Ukraine. La Russie ne doit pas et ne peut pas gagner cette guerre, a-t-il martelé. Alors il entretient surtout un concept militaire, l'ambiguïté stratégique. On l'écoute.
Si la Russie venait à gagner, la vie des Français changerait. Nous n'aurons plus de sécurité en Europe. Qui peut penser une seule seconde que le président Poutine, qui n'a respecté aucune de ses limites et aucun de ses engagements, s'arrêterait là? La sécurité de l'Europe et la sécurité des Français se jouent là-bas. Si la Russie gagne cette guerre, la crédibilité de l'Europe sera réduite à zéro. La sécurité des Européens, quelle serait-il? Est-ce que vous pensez que les Polonais, les Lituaniens, les Estoniens, les Lettons, les Roumains, les Bulgares pourraient une seconde rester en paix? Et je ne parle même pas de la Moldavie, qui certes n'est pas dans l'Union Européenne aujourd'hui, mais qui à la seconde serait menacée. Aujourd'hui, il faut avoir, pour reprendre une vieille formule de Churchill, le nerf de la paix.
Allez, on va décortiquer cette allocution. Philippe Bilger, est-ce qu'en affirmant son ambiguïté stratégique, est-ce qu'il n'entretient pas l'escalade avec Vladimir Poutine?
Sûrement, mais en même temps, comment dirais-je, sans abuser de cette expression dont le président raffole, je considère que à partir de la modestie de mon approche, je ne suis un citoyen qui essaye de s'intéresser à la chose géopolitique, mais je n'ai pas la prétention de donner des leçons à ceux qui savent mieux que moi. Je considère que le constat qu'il fait, qu'il a donné hier soir, est très clair, sans équivoque, et je le partage. Poutine est un dictateur, il est responsable de la guerre en Ukraine, c'est lui qui doit faire les premiers pas, paraît-il, parce qu'il est responsable de tout. Et simplement, une fois que le président a dit cela avec force et avec résolution, j'ai envie de lui dire « d'accord, mais à partir du moment où nous ne parvenons pas, en effet, à vaincre Poutine, à l'empêcher de dominer l'Ukraine, il faudra bien un jour, tout de même, donner sa chance à l'avenir, au futur de la paix. Mmh. Et là, je suis un peu inquiet, dans la mesure où le président, aussi estimable qu'il soit dans cette approche internationale, a l'air de dénier par principe toutes les solutions alternatives qui sont données par des oppositions françaises, par exemple, qui ne sont pas illégitimes dans les propositions qu'elles peuvent faire. On n'est pas forcément un traître à la patrie et à la volonté d'en découdre avec Poutine lorsqu'on ne va pas exactement dans le sens d'Emmanuel Macron.
Paul Melun.
Et le problème avec le constat qu'a parfaitement résumé Philippe, le constat du président de la République, c'est que, en fait, derrière ce constat, du moment que vous dites Vladimir Poutine est responsable de tout, il est un autocrate, etc., etc. Bon, une fois que vous avez présenté les choses ainsi et que vous dites la Russie ne doit pas gagner cette guerre, C'est donc que la guerre doit être gagnée par le parti adverse. Le parti adverse, c'est l'Ukraine. Nous sommes avec l'Ukraine, donc nous sommes en guerre avec la Russie, donc nous devons gagner la guerre. Ouais. À un moment donné, si vous voulez, cette espèce d'ambiguïté stratégique, comme on aime à le dire, est tout simplement, en même temps, qui est insoutenable. Et effectivement, il manque dans le discours du président, et les extraits que vous avez présentés le résument bien, il manque au président une porte de sortie. Si vous dites, le président Poutine est responsable d'absolument tout, c'est un autocrate, quelle porte de sortie offrez-vous à la négociation, au travail, avec les forums pour la paix, avec les pays tiers? Absolument rien. De fait, si Vladimir Poutine est un autocrate sanguinaire, ce qu'il est, eh bien, à ce moment-là, mettons-nous en guerre avec tous les autocrates sanguinaires de tous les pays. Mmh. Allons protéger les Ouïghours face aux Chinois. Allons défendre l'Arménie face à l'Azerbaïdjan. Allons faire la guerre à Kim Jong-un en Corée du Nord. Et je pourrais vous en citer encore des dizaines. Donc, tout ça ne tient pas debout. Je ne vais pas faire la définition de la réalpolitik ici. Mais, de fait, la géopolitique, c'est la réflexion par rapport aux intérêts vitaux de la France. Et à la différence d'Emmanuel Macron, je ne crois pas que les intérêts vitaux de la France soient menacés par ce qui est en train de se passer au Donbass ou en Crimée. Mmh. Par conséquent, je pense qu'il faut soutenir le peuple ukrainien et soutenir leur résistance parce qu'effectivement, les Russes sont les envahisseurs dans cette affaire, tout en considérant et en faisant la généalogie de l'attaque des Russes, hein, notamment effectivement le rôle de l'OTAN là-dedans, et ensuite qu'il faut mettre les parties autour de la table et aller à la négociation. Si cette porte ouverte n'est pas mise en place, eh bien effectivement, nous avons une escalade. Vladimir Poutine utilise ce qu'a dit le président de la République et le diffuse auprès de tous les Russes qui ont eu ça.
Actuellement, sur le bureau de vote.
Lorsqu'on va voter au bureau de vote, on a Emmanuel Macron, donc, qui est vu comme un casus belli, ce que c'est d'ailleurs une déclaration de guerre d'Emmanuel Macron. Et donc, tout ça est entretenu avec la propagande russe.
De Napoléon.
Oui, exactement.
Voilà,
ouais. Et ouais, on sait bien que d'ailleurs, la campagne de Russie de Napoléon, c'est pas ce qu'il a fait de plus malin. Oui. Donc, si vous voulez, à un moment donné, il faut faire très attention parce que nous entrons dans un engrenage qui est dangereux. Dernier point, le président de la République, dans la même interview, nous explique qu'on a les moyens de faire face à Moscou. Et quelques phrases avant, il nous dit que dans notre industrie d'armement, nous n'avons pas les moyens de faire face en armée conventionnelle et que nous ne sommes pas suffisants. Alors, il faut savoir où on produit suffisamment en Europe et en France et on a ce qu'il faut en termes d'industrie d'armement, où on ne l'a pas et à ce moment-là, on fait profil bas. Mais là, on fait les choses à l'envers. C'est-à-dire qu'on menace l'adversaire alors que nous sommes avec une petite cuillère et que lui, il a un bazooka. Ouais. Donc certes, il y a les armes nucléaires, mais j'ose espérer que le président de la République ne pense même pas à ce type d'extrémité-là. Donc oui, je trouve très périlleux et très inquiétant l'exercice du président de la République.
Alors, qu'en pensent nos auditeurs? Tiens, Philippe nous écoute en Aquitaine. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour.
Bonjour. Alors, vous avez suivi cette allocution. Qu'en avez-vous pensé?
Très belliqueuse. Mais la question n'est pas de savoir si on veut, mais si on peut.
Oui.
Et il y a une question sur laquelle on ne s'arrête jamais, ce sont nos soldats. Je suis moi-même ancien militaire et deux enfants qui sont actuellement sous les drapeaux. À eux deux, ils doivent représenter plus de 10 OPEX. Hein.
Oui.
Alors moi, j'aimerais savoir
OPEX,
si...
OPEX pour nos auditeurs.
C'est
opération extérieure. OK, très bien.
Moi, je suis prêt. Moi, j'aimerais se poser la question, est-ce qu'on est prêt à envoyer nos jeunes soldats mourir pour Odessa, comme il semblait l'avoir dit le président, alors qu'à ce jour, dans les tranchées ukrainiennes, la moyenne d'âge est de 41 ans. C'est-à-dire que nos soldats sont de 18 à 30, 40 ans. Et donc, on enverrait nos jeunes soldats se battre alors que la jeunesse ukrainienne, à l'heure actuelle, n'est pas mobilisée. Et la deuxième question que je me pose, c'est est-ce qu'on est prêt à voir défiler des centaines de cercueils sur les différents tarmacs?
Oui.
Et d'entendre tous les soirs la litanie des non-disparus. Et tout ça, je le rapproche au matériel et à notre armement. C'est-à-dire, au niveau conventionnel, en ce moment, on est exsangue. On a un nombre de matériel en renouvellement lent et extrêmement conséquent. Je vais prendre par exemple les gazelles, parce qu'on s'est moqué du matériel russe, mais il faut savoir qu'en France, on a encore des hélicoptères qui ont plus de 40 ans. On a abandonné le renouvellement des chars Leclerc. Et on est seulement à l'étude sur les drones d'attaque au sol. Il faut savoir qu'au Mali, quand on a fait venir les premiers drones des Américains, on a demandé à ce qu'ils ne soient pas armés. Et on a vu des chantiers, on les a armés par la suite. Donc si, effectivement, la Russie pose un problème, mais si on veut pouvoir avoir le dos pour s'y opposer, il faut commencer à s'armer, il faut commencer...
Vous avez raison. Vous avez raison, Philippe, et vous connaissez très bien le sujet, effectivement, puisque vous êtes vous-même un ancien militaire. Ils sont où, vos deux fils, actuellement? Dans quel service?
ça je vais le garder pour moi, mais ils sont sous-officiers d'activité.
D'accord, très bien. Donc vous maîtrisez parfaitement effectivement le sujet. Merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage, Philippe, qui nous écoute en Aquitaine. Alors est-ce que on ne place pas la diplomatie française en situation de malaise rapidement, Paul ?
Bah, si, effectivement, moi je pense. Et effectivement, ce que nous dit Philippe est très important sur notre incapacité en armée conventionnelle à faire face à un conflit de haute intensité. Ouais, c'est un peu du jargon, mais c'est exactement ce qu'a dit le président de la République hier. Donc quand dans la même interview, vous dites que nous ne sommes pas capables de tenir un conflit de haute intensité, tous les spécialistes le disent, et que dans le même temps, vous allez menacer une puissance militaire de l'envergure de la Russie, vous prenez un risque. Voilà.
Mais on peut critiquer le discours du président, mais il est confronté à ce terrible étau qu'un président de la République française affronte assez régulièrement. Il y a la noblesse du discours qui doit être proféré, et bien sûr, il y a l'infirmité et la pauvreté des moyens. Mais je dirais que pour une fois, cette volonté de tenir le « en même temps » de sa part n'est pas choquante.
Allez, on reste ensemble, évidemment, dans quelques instants. On va se poser la question, peut-on publier un livre avec un homme politique quand on travaille dans le service public ? On va revenir sur la suspension d'un journaliste de France Info dans quelques instants. A tout de suite sur Europe 1.
Merci d'avoir choisi Europe 1. Vous écoutez Céline Giraud de 13h à 14h.
Europe 1 13h.
Bon début d'après-midi sur Europe 1 avec Céline Giraud de 13h à 14h. Céline, vous êtes avec vous deux chroniqueurs du jour, l'écrivain et essayiste Paul Melun et l'ancien magistrat Philippe Bidger.
Et on se pose cette question et j'aimerais vous entendre. Est-ce qu'un journaliste politique peut écrire sur et avec une personnalité du Rassemblement National sans être mis à pied par le service public ? C'est ce qui est arrivé à Jean-François Achilly. Il avait échangé avec Jordan Bardella pour un livre. Le journaliste de France Info souhaitait publier un recueil d'entretiens. Finalement, le projet n'a pas abouti, mais Le Monde a révélé la teneur de ces échanges entre Achilly et Bardella. Sanction immédiate, suspension à titre conservatoire. Est-ce que selon vous, Paul Melun, je commence avec vous, il a été sanctionné parce qu'il a travaillé sur un projet de livre sur le RN.
Moi, je trouve cette affaire, pour être franc, surréaliste. C'est-à-dire que Jean-François Achilly est un journaliste sérieux, qui travaille depuis des années à son poste, qui fait un travail de journaliste, c'est-à-dire un travail d'entretien avec un homme politique. Ça existe depuis la nuit des temps.
Ah oui, j'ai quelques noms,
je vais vous en citer. J'imagine.
Oui, le serment de Bastia de Charles Pasqua, avec justement Jean-François Achilly. Il faut tout changer, Estrosi, Safran. Voilà. Un président ne devrait pas dire ça, Adavellum. Voilà. Et puis Elisabeth Borne, la secrète de Bérangère Bonte, qui d'ailleurs co-anime les informés avec elle.
Précisément. Donc en fait, on a tous bien compris ici que le sujet, c'est pas qu'il ait co-écrit, ou en tout cas qu'il fasse un livre d'entretien, parce qu'un livre d'entretien, ça veut pas dire qu'il adhère aux thèses de Jordan Bardella. Avec Jordan Bardella, c'est surtout que ce soit avec le Rassemblement National. Et effectivement, le Rassemblement National, on pourrait presque faire la généalogie de ça, a des difficultés, disons, avec le monde éditorial, parce que le monde des éditeurs est un monde, disons, comment dirais-je, qui conserve un certain nombre de rigidités avec et de frontières inamovibles avec notamment le Rassemblement National. Et que effectivement, si je me fais l'avocat du diable, si vous êtes un éditeur et que vous éditez un livre de Jordan Bardella ou avec Jordan Bardella, vous allez tout de suite être traité d'extrême droite. Donc c'est compliqué à plein de titres, cette histoire de livre. C'est compliqué pour les éditeurs potentiels, c'est compliqué pour quelqu'un comme Jean-François Achilly parce que le service public prend une mesure conservatoire alors même que lui s'en défend, je crois, si je dis pas de bêtises, et que Jordan Bardella s'en défend aussi. Donc si vous voulez, il y a une mesure qui est prise en amont, alors même qu'il n'y a même pas eu, si ce n'est d'enquête, ça fait même bizarre de parler d'une enquête là-dessus. Enfin, je trouve qu'en fait, dans cette histoire, on nage en plein délire. Dans un pays normal dans lequel la liberté d'expression prévaut, Jean-François Achilly devrait pouvoir écrire un livre d'entretien avec qui il veut, de Philippe Poutou jusqu'à Éric Zemmour en passant par la majorité présidentielle, sans être inquiété. Et au contraire, on devrait s'en réjouir en disant, France Info devrait dire, c'est intéressant, nous avons un grand journaliste qui fait un livre d'entretien avec un homme qui a même pas 30 ans, se trouve patron d'un grand parti politique qui est peut-être le premier de France, etc. On va voir ça bientôt. Enfin, si vous voulez, c'est très intéressant comme sujet. Et encore une fois, ça ne dit rien des opinions politiques de Monsieur Achilly, qui peut-être même demain aurait pu écrire un livre avec, je ne sais pas, un socialiste. Donc, si vous voulez, c'est un non-sens total. Oui. En fait.
Philippe Bidger, est-ce que la question, ce n'est pas ça. Est-ce qu'il aurait été sanctionné de la même manière s'il avait écrit un livre, un recueil d'entretien ou un projet avec Jean-Luc Mélenchon ou Gabriel Attal ?
Je ne crois pas, mais je crois qu'il faut distinguer. J'aime beaucoup Jean-François Achilly, comme l'a dit Paul, c'est un journaliste de talent et très compétent. On aurait pu discuter à la rigueur si Jean-François Haki avait écrit un livre avec Jordan Bardella en parfaite communauté intellectuelle et politique.
Tout à fait.
Parce qu'on
si c'est un recueil
pu...
d'entretien, c'est juste un échange.
Absolument. Mais imaginons une participation plus directe à l'élaboration de la pensée du livre. On aurait pu dire, d'une certaine manière, Jean-François Haki révèle quelque chose de lui sur le plan politique qui rend difficile l'affirmation d'une neutralité ultérieure. Mais une fois que j'ai dit ça, je me contredis évidemment parce que je crois savoir qu'il s'agit d'échanges, de conseils qu'il a donnés et en aucun cas ça ne justifie la mesure qui a été prise par la radio, surtout, pardon d'aller dans un sens que j'affectionne, c'est de dire, c'est assez paradoxal de la part du service public de porter atteinte à l'intégrité d'une certaine manière de Jean-François Haki, alors que de manière ostentatoire ou implicite, le service public, et j'en pense en particulier à une certaine radio, ne cesse pas de montrer à quel point sa partialité est évidente.
Alors
je trouve qu'il y a absolument, Céline, il y a deux poids, deux mesures, c'est doublement absurde.
Oui, alors que Léa Salamé continue effectivement d'être à l'antenne, alors que son compagnon, Raphaël Glucksmann,
est dans... Et puis qu'on vienne pas nous dire
que
là, il y aurait,
d'interview politique, je le précise,
qui aurait de l'honnêteté, de l'objectivité. On sait parfaitement que c'est de la façade derrière n'importe quel citoyen passionné par
alors
la
pourquoi est-ce qu'ils ont réagi pour, comme ça
et parce que
vous.
Nous restons mais, sur mais le cordon sanitaire.
Mais c'est parce ce qu'ils que précisément,
c'est du
il faut, comme le dit Paul, c'est le cordon sanitaire et d'autre part, par cette attaque
parlez
absurde...
Parlez bien dans le micro, pardonnez-moi Philippe.
Par cette attaque absurde, laissez croire que le service public est honnête. C'est ça le paradoxe.
C'est une forme de zèle, Paul Melun.
Il y a probablement un excès de zèle et puis il y a probablement un autre paramètre aussi, c'est la pression au sein de la rédaction. Je ne connais pas vraiment l'affaire dans son intimité, au-delà de ce qui s'écrit dans la presse, mais il est possible aussi qu'il y ait un lobbying intense d'un certain nombre de personnes. Peut-être que certaines personnes aussi ont voulu régler leur compte avec Jean-François Haki. Vous savez, ce sont des univers complexes dans lesquels il y a des jeux de pouvoir, il y a des jeux de détestation réciproque ou non.
Et bien,
je n'aimerais pas m'aventurer là-dedans, voyez-vous.
Qui est très échaudée par les divers scandales de ménage qui ont éclaboussé la rédaction l'an dernier. Mais là, ça ne rentre pas dans le cadre d'un ménage, entre
évidemment.
Et puis c'est un travail journalistique.
Bien sûr, c'est un travail journalistique. Et vraiment, le sujet de fond, c'est de se dire, est-ce qu'un journaliste politique de talent comme lui peut écrire ou travailler à l'écriture d'un livre d'entretien avec un homme politique de premier plan? Et en plus, si Jordan Bardella était à la tête d'un groupuscule d'extrême droite, je ne dis pas. Mais là, c'est un parti pour lequel, a priori, si on en croit les enquêtes d'opinion, un tiers quasiment des Français seraient capables de voter aux prochaines européennes. Excusez-moi.
Pour terminer, Philippe Villégère, pardonnez-moi, sur le rôle du Monde, du journal Le Monde, qui révèle le contenu des échanges justement entre le journaliste et Jordan Bardella, c'est très politique aussi.
Je vais oser dire du mal d'un quotidien à la fois très contestable et irremplaçable pour qui s'intéresse. Bien sûr, c'est très politique. Il y a deux raisons qui font que cette affaire absurde surgit. D'abord, parce que vous l'avez très bien dit, parce que c'est Jordan Bardella, et puis parce que je crois beaucoup au ressentiment personnel, parce que c'est Jean-François Haki, j'en suis persuadé. Ça ne serait pas arrivé à n'importe qui, et bien sûr pas s'il avait très légitimement donné son avis à Gabriel Attal, vous l'évoquiez tout à l'heure.
Donc ça veut dire qu'aucun journaliste du service public ne pourrait écrire quelque chose autour de Jordan Bardella avant les élections.
Ce qui pose un vrai questionnement d'ailleurs autour de l'indépendance des journalistes et de leur vocation à être pluraliste. Un journaliste politique, bon vous savez ça mieux que moi, mais un journaliste politique peut dans sa carrière suivre tel ou tel candidat ou telle sensibilité politique, sans pour autant naturellement en être proche. Dans toutes les rédactions, vous avez une personne, ici même je l'imagine, qui va suivre la gauche, la droite, le centre, que sais-je, et cette personne-là est en charge. Là, moi je pense que le travail potentiel de Jean-François Haki pourrait quasiment rentrer dans cette catégorie-là. Donc si vous voulez, on en revient toujours à la même chose. Lorsqu'il s'agit du Rassemblement National, il y a effectivement de la part d'un certain nombre de journalistes une forme, si vous voulez, d'excès de zèle, de cordon sanitaire qui consistent à dire le Rassemblement National est une menace pour la République, pour la démocratie, etc. Certains de vos confrères refusent de recevoir le Rassemblement National sur leur plateau. Ça montre bien que tout ça procède de la même méthode. Méthode qui, par parenthèse, ne sert à rien. Mmh. Parce que la méthode qui consiste à ostraciser le Rassemblement National et à leur faire dire n'importe quoi n'a pas marché, puisque il y a 40 ans, Jean-Marie Le Pen était à 2 ou 3% et qu'aujourd'hui, Marine Le Pen est créditée de score d'intention bien plus élevé. Donc la stratégie du cordon sanitaire en plus ne fonctionne pas.
Merci beaucoup pour votre décryptage et éclairage toujours fini. Précieux. C'est déjà fini, c'est passé tellement vite.
Mais écoutez,
mais vous allez revenir.
Ça passe beaucoup trop
on
vite.
On va faire une session de rattrapage évidemment. Merci à tous, on se retrouve lundi pour de nouvelles aventures et ce soir bien sûr 18h, Pierre de Villeneuve.
C'était Céline Géraud sur Europe 1 et votre vendredi après-midi se poursuit avec Stéphane Bern notamment qui dans Historiquement Vôtre sur Europe 1 du lundi au vendredi de 15h à 16h vous fait le récit d'événements, de lieux et de personnages qui ont façonné l'histoire. Et cet après-midi, Stéphane Bern retrace l'histoire de Bonjour Tristesse, le premier roman de François Sagan, paru le 15 mars 1954, il y a 70 ans. Le rendez-vous est pris 15h-16h, Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern. C'est juste après On de la raconte, version Code B, dans un instant sur Europe 1.